Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous avons décidé, suite à un début de week-end un peu difficile, de vous parler du Japon. Parce qu'en effet, en termes de début de week-end un peu difficile, on s'apprêtait...
Tout le week-end d'ailleurs.
Oui, on s'apprêtait vendredi à commencer le week-end tranquille. Moi, j'étais sur le site de l'Université de l'Épargne à faire mes petits commentaires. Et tout à coup, je vois arriver des postes de personnes s'arrachant les cheveux, arrachant leurs vêtements, essayant de se pendre au écourt, en me disant que c'était la fin du Japon, qu'il y avait un krach obligataire, qu'on allait tous mourir, qu'il fallait se recouvrir la tête de cendres et compagnie, que le marché obligataire n'était plus, que les taux longs, enfin bref, c'était horrible. Alors, on a besoin de savoir, Charles, Piti, dis-nous tout, est-ce qu'on va vraiment tous mourir? Est-ce que les Japonais vont tous mourir? Où en est-on?
Alors, les Japonais vont tous mourir, nous aussi d'ailleurs, donc le fait qu'on va tous mourir, mais c'est pas parce qu'on va tous mourir qu'il faut casser les pieds aux gens.
Et, à la veille d'un beau week-end?
À la veille d'un week-end, etc.
Donc, j'y vais, moi, de je mai, que... enfin
C'est la... ce que j'ai aimé dans la France, c'était qu'autrefois la France, les soldats français en particulier, ils mouraient avec élégance. Ils emmerdaient pas tout le monde.
Non, puis il y a des choses importantes, les horaires de table.
Hein. Exactement. Le week-end.
Ouais, je veux dire, on n'embête pas les gens entre midi et 14 heures, ça me paraît évident.
Exactement.
Faut pas rester là malade.
Alors donc, quelle est l'histoire? C'est qu'il y a toute une série de gens. Le marché obligataire japonais est en train de se péter la gueule. Et donc, ils en ont tiré comme conclusion que ça y était, c'était la fin du monde, et que enfin, la grande crise qu'ils attendent tous avec beaucoup d'impatience depuis 1838-40, quand Marx avait publié le petit bouquin qu'il avait, le communisme, oui. Bon, et donc, on arrive à un moment où enfin va arriver la grande crise. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que le marché obligataire japonais se casse la gueule.
Tout le marché obligataire, parce qu'il y a quand même, on rappelle aux gens, il y a les taux longs.
C'est les taux longs, parce que marché obligataire, c'est mettons en 10 ans ou plus.
Voilà.
Et puis la partie courte, elle
bouge pas. À 3 ans.
Mais tout ça, comme les taux courts, là, si vous savez, beaucoup moins d'effet, ils ont baissé un peu, mais pas des masses.
Donc les taux longs.
Les taux longs se pètent la gueule avec beaucoup d'entrain.
Alors pourquoi dans la vie, les taux longs se pètent la gueule?
Eh bien d'abord, je vais dire, le fait que les taux longs se pètent la gueule est une bonne nouvelle. Ben, les taux longs, donc, le marché obligataire, vous savez, en principe, le marché obligataire sert à mesurer, dans un système économique, le coût du temps. C'est-à-dire que si vous touchez un dollar dans 10 ans, ça vaut pas la même chose que vous si touchez un dollar dans un an. Parce que, ben, vous avez 9 ans à attendre. Donc, en quelque sorte...
On doit rémunérer ton temps.
Rémunérer le temps où tu n'as pas accès à ton argent. Bon, donc, et il est évident que plus les taux d'intérêt, plus le temps est long, plus une hausse ou une baisse des taux d'intérêt va avoir un impact sur le prix de ton obligation. Aujourd'hui, imagine que tu as une obligation qui te donne allez, du 10% par an. Une obligation qui, à 10 ans... Elle te donne du 10% par an. Ben, si les taux tombent à 5, ben, tu vas toucher un coupon de 10, alors que le prix de marché est à 5. Donc le cours de ton obligation va monter pour amener le coupon de 10 à 5. Tu vois, donc c'est un jeu mathématique pour arbitrer le temps en fonction du prix d'aujourd'hui. Donc les obligations auront toutes le même rendement, mais elles n'auront pas le même prix. C'est-à-dire que mon obligation à 10%, que si les taux tombent à 5, ben elle vaudra 180, tu vois, ou un truc comme ça, pour ajuster. Donc, il faut bien comprendre une notion essentielle, c'est si les taux d'intérêt montent, ça veut dire que le prix du temps augmente, et donc la valeur de ton obligation aujourd'hui va baisser, et vice-versa. Donc, c'est une notion très importante. Alors, les taux longs montent beaucoup au Japon, pourquoi? Ben, je vais essayer d'expliquer dans cette petite réunion d'aujourd'hui que c'est parce que le prix des obligations japonaises était un faux prix, complètement faux prix, et que ce faux prix des obligations japonaises a déclenché un faux prix du yen, parce qu'évidemment, ça a un impact, et que ce faux prix du yen allait créer des problèmes monstrueux, parce que le yen était beaucoup trop bon marché, ce qui, par exemple, pour l'Allemagne, crée des problèmes de concurrence absolument gigantesques, et même vis-à-vis de la Chine. Donc, le fait qu'on soit en train de retourner à un prix de marché à la place d'être un prix administré, comme ça l'était avant, est une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que tous les gars qui avaient placé de l'argent sur le truc administré, ils sont en train de perdre leur culotte. Mais c'est ce qu'on dit dans la Bible, si tu veux. Un crétin et son argent sont
très souvent séparés.
Se séparent assez rapidement, donc ça ne me gêne pas. Donc le simple fait que les taux montent au Japon veut dire que le Japon est en train de retourner dans un système de marché, ce qui n'était plus le cas, et que retournant dans un système de marché, on peut espérer que le yen va aussi retourner vers une valeur de marché. Okay ? Donc c'est en tout état de cause, c'est une excellente nouvelle, par exemple, pour ceux qui ont du cash au Japon. Qui a été notre recommandation. Donc, alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses aujourd'hui pour développer ce point. La première, c'est, ça s'appelle, je lis d'ici, le yen dollar et parité des pouvoirs d'achat. Alors, on a beaucoup parlé de la parité des pouvoirs d'achat. C'est que, pour revenir à notre idée de base, c'est que le prix d'un McDonald's doit être le même partout dans le monde une fois qu'on prend en compte le taux de change. Et le prix du McDonald's dans le monde, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est un peu la même idée, c'est la ligne rouge dans le graphique du haut qui traverse le graphique en allant de en haut à gauche, en bas à droite, tu vois, ça c'est même. Et la ligne bleue, c'est simplement le cours de change du yen vis-à-vis du dollar. Et tu vois la ligne bleue revient toujours sur la ligne rouge.
Dis-moi, est-ce que l'abscisse ordonnée, elle n'est pas inversée? Ça ne devrait pas être US dollar sur Japon?
Non, ça c'est en yens, c'est le nombre de yens par dollar.
D'accord.
C'est le nombre de yens par dollar. Aujourd'hui, on était, si je regarde à l'échelle de droite, on est aux alentours de 142,16, c'est-à-dire à peu près 143, et la parité des pouvoirs d'achat est aux alentours de 95.
D'accord.
C'est-à-dire que le yen est sous-évalué. Quand la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge, ça veut dire que le yen est sous-évalué d'un bon 40%. Allez. Donc, un jour, la ligne bleue retombera sur la ligne rouge, et à ce moment-là, ceux qui ont du cash feront 40% contre le dollar, c'est une très bonne idée. Alors, tu regardes ça, ça c'est là. C'est historiquement comme ça, tu mets le cours de change en bleu, la parité des pouvoirs d'achat en rouge, et puis si tu te dis, ben oui, ça ne dit pas grand-chose, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'écart en pourcentage entre la ligne bleue et la ligne rouge, de façon à ce que ce soit horizontal en bas. Tu vois, c'est écart par rapport à, tu vois, c'est donc, par rapport où ça devrait être. En fait, le bleu, c'est là où il est, le rouge, c'est là où il devrait être. Donc, tu vois qu'on reste aux alentours de 1, ce qui est la chose normale, hein, tu vois. Quand on commence en 1975, ça remonte loin, hein. Mm-hmm. Et puis, on se balade entre 1,20, 1,5 et 0,75, ce qui est normal, c'est l'erreur moyenne, tu sais, ça se balade là-dedans. Et ce graphique ne devient intéressant que quand tu es très en dessous ou très au-dessus. Ça veut dire que là, il y a une opération à faire parce que probablement, le marché n'est pas en ordre. Il y a quelque chose qui a disloqué le marché qui fait qu'on va retourner un jour à la... Bon, par exemple, le yen est complètement surévalué en 1995. Tu vois là, on est à près de 2 fois. Donc ensuite, ben, il passe, ça met du temps, mais il retombe à la ligne rouge quelque part en 2000, et puis ça continue comme ça, donc il reste entre les deux lignes rouges, et puis d'un seul coup, aux alentours de 2022, qu'est-ce qui se passe? Le yen d'un seul coup, se pète la gueule comme un fou, et tombe de 0,75 à 0, à un moment, à 0,50, c'est-à-dire c'est une baisse considérable. Donc il s'est passé quelque chose, c'est la ligne... Horizon, c'est la ligne verticale en pointillé.
Oui, en pointillé, noir.
Il s'est passé quelque chose aux alentours de 2022-2023 qui fait que le yen se pète la gueule. Donc ce que je vais décrire, c'est qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, il y a eu le Covid, comme tout le monde.
Mais le Covid, ça n'a pas tellement eu d'effet, c'était en 2020, tu vois, ça reste...
Oui, on peut se dire c'est un post-Covid ou quelque chose, parce que nous, on a eu des plateaux ou des choses comme ça.
C'est pas ce qui s'est passé. Alors, donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on passe au deuxième graphique qui vous donne l'explication. Alors là, il va falloir vous accrocher parce que c'est pas simple, mais en fait, si, c'est simple. C'est simple, mais ben voilà, on va essayer de vous l'expliquer. Hein. Ça va pas être facile, mais... Donc la ligne bleue, c'est toujours la même ligne bleue que tout à l'heure. Et la ligne rouge, c'est cette fois-ci l'écart des taux entre le court terme américain, les bons du Trésor à 3 mois, tu veux dire les taux courts, et les taux longs japonais.
D'accord.
Donc, si la ligne rouge monte très fortement, ça veut dire que d'un seul coup, les taux américains, par exemple en début 2024, là, ils vont donner, échelle de gauche, 4 points de plus que les taux longs japonais. C'est-à-dire, les taux japonais étaient à 0 et les bons du Trésor américain étaient à 4.
Comment tu peux même avoir des taux à 0 dans la vie ?
Eh ben, c'est ce qui... Alors, on y vient. On y vient, c'était une très bonne question. Revenons dans la décennie qui va de 2012 à 2022, où d'abord tu as la grande crise financière en 2008-2009. Donc
Tout le monde essaie de naviguer à vue et s'en
comme
sortir.
Comme il y avait, c'était une crise de surendettement, en particulier dans l'immobilier aux États-Unis, pour essayer de sauver les banques et les gens qui avaient trop emprunté, le gouvernement américain décide de mettre ses taux quasiment à zéro, en disant comme ça, les gars, ils pourront payer leurs dettes parce que, ils auront du mal à la rembourser, mais au moins, ils n'auront pas du mal à faire le service. Donc ça se passe en 2008, 2009, 2010, en 2011, 2012, crise européenne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, quasiment sautent. Et à ce moment-là, pour sauver l'Europe,
whatever it takes.
Le monsieur Draghi dit whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il soit, je le ferai. Et il met les taux aussi à zéro. À ce moment-là, les Japonais, en 2016, se disent, comme ils n'avaient pas réussi à avoir de la croissance pour des tas de raisons, ils disent ce que je vais foutre, c'est que je vais foutre les taux aussi à zéro. Les taux courts à zéro. Donc tu te retrouves de 2016 à 2022, quasiment, avec les taux.
US
à zéro,
les taux
allemands à zéro et les taux japonais à zéro. Tu remarqueras qu'à ce moment-là, le yen de 2016 à 2022, c'est la ligne bleue, il ne fait pas grand-chose. Tu vois, il reste aux alentours de 110 échelles de droite, il merdouille, il n'y a pas de... Mais les Japonais font un truc différent, c'est qu'ils disent, je ne vais pas mettre les taux à zéro, je vais contrôler la courbe des taux. C'est-à-dire qu'ils disent, je vais mettre les taux courts à moins 0,5 et les taux longs à 0. C'est-à-dire que si les taux longs passent au-dessus de 0, s'il commençait à avoir un vrai rendement sur les obligations, moi, la Banque Centrale Japonaise,
je vais en acheter
et je l'achèterai à tiroir ouvert.
Donc, un QE.
C'est un QE, mais les deux autres faisaient du QE en même temps aussi. Donc tout le monde fait des QE, tout le monde fait marcher la planche à billets. À force de faire marcher la planche à billets, vers 2022, l'inflation commence à monter beaucoup.
Bah, de fait.
De fait, aux États-Unis et en Europe et un petit peu au Japon.
Something's got to give.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Les Américains et les Européens disent, bon, mais nous, on va remonter nos taux courts pour lutter contre l'inflation. Et les Japonais disent, nous, on va continuer à acheter des obligations à zéro.
Mais alors, parce qu'en France et dans nos pays, on l'a fait aussi un petit peu parce que les gilets jaunes, parce que le peuple, quand même, commence à dire au bout d'un moment...
Oui, mais on n'avait pas pris une décision d'empêcher les obligations de monter à zéro. Il n'y avait pas un contrôle des taux longs.
Mais
un contrôle des taux courts, mais les Japonais ont fait le contrôle des deux à la fois.
Des deux à la fois. Mais attends, j'arrive avec ma question. C'est est-ce que les gilets jaunes japonais ne sont pas pris à la gorge ? Parce que eux, ils se retrouvent avec une inflation...
Non, mais le pauvre Madame Watanabe...
De la rue, celle qui ne dépend pas du système d'exportation.
Elle vivait des rendements qu'elle avait sur ses obligations, elle touche du zéro.
Oui, c'est pas très sexy.
Alors que l'inflation est en train de devenir positive.
Bah oui, du coup, en rendement réel, elle est pas bien.
Ah bah, elle est en train de perdre tout ce qu'elle veut.
Bah oui, c'est pas très intéressant quand t'es à la retraite. Et que tu dépends plus du système de croissance.
Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Madame Watanabe ? Elle dit, si ça vous fait rien, puisque j'ai des obligations qui me donnent du zéro, je vais les vendre. Et je vais acheter des bons du Trésor à 3 mois aux États-Unis qui me donnent du 4.
Bah ouais. Au moins, comme ça, au réel, elle s'y retrouve un peu.
Non, c'est logique, hein.
Bah oui.
Eh ben, la différence entre 4 et 0, c'est la ligne rouge. Tu vois, à partir de 2020, par là.
Ouais.
Et la ligne bleue, c'est le taux de change. Parce que quand elle vend ses obligations, Madame Watanabe, elle reçoit des yens. Pour toucher du 4, il faut qu'elle achète des dollars.
Bah oui.
Et donc, le dollar, il monte comme une fusée, parce que d'un seul coup...
Et le yen baisse en contrepartie.
Évidemment, le yen baisse. Donc, tu vois très bien comment ça se passe.
Donc, en fait, la baisse du yen qu'on voyait là,
Ben, c'est pas,
c'est parce Madame que... Watanabe qui change ses yens en dollars.
C'est qui change ses yens en dollars en disant, ben, si ça vous fait rien, moi, je suis pas d'accord pour être payé 4, on pourrait être payé 0, je vais aller chercher du 4. Mmh. Et le yen se pète la figure de façon considérable.
Tu vois, en fait, c'est il se pète à cause du dollar, en fait.
Il se pète parce que le dollar donne du 4, le yen donne du 0. Ben, je vais vendre mes 0. Puis il y en a quelqu'un qui va me les acheter, quel que soit le prix, tu vois, c'est. Donc,
puisqu'on a déterminé que la Banque Centrale allait être à tiroir ouvert. Donc, du moment qu'il y a des obligations qui arrivent, elle les achète. Puisqu'elle ne veut pas que ses taux remontent.
Mais par contre, personne ne bloque le taux de change.
Bah non.
Et le taux de change, lui, il monte. Et du coup,
ils peuvent pas bloquer le taux de change en plus. C'est quand même une banque centrale libérale.
Oui, ils auraient du mal, mais enfin, tu pourrais pas, dans tout cas.
Ça se fait un peu pas de bloquer des taux de change, à part l'euro.
À part l'euro ou à part le dollar d'Hong Kong, mais ça c'est autre chose. Mais alors tu vois, paf, tu as cette extraordinaire hausse du dollar, la ligne bleue qui passe à travers du toit. Mm. Et ça dure donc de 2022, moment où les États-Unis et l'Europe commencent à monter leur taux, à 2024, moment où la Banque Centrale Japonaise décide que finalement son histoire de bloquer les taux longs à zéro, c'est idiot, et qu'elle va libérer les taux longs.
Bah, elle s'est peut-être dit aussi au bout d'un moment qu'elle ne pouvait pas continuer à tiroir ouvert comme ça toute sa vie.
Et surtout, les gens gueulaient partout en disant « dites donc, ça vous fait rien, mais un yen à 160, c'est pas bien raisonnable parce que ça veut dire grosso modo qu'une Lexus vaut la moitié d'une Mercedes. » Tu vois, dans le domaine de la concurrence, pour revenir à mon exemple des... Donc, c'est pas tenable.
Donc, oui, mais alors le problème qu'ils vont avoir, et certaines personnes le relèvent, c'est qu'ils disent oui, mais alors comme les Chinois à côté tirent leur yuan très bas, ils vont retrouver avec des voitures chinoises qui va les envahir aussi parce qu'elles seront 30% moins chères.
Oui, sauf que le développement du système industriel chinois est tellement récent, etc., qu'ils ont des gains de productivité monstrueux et que leurs voitures sont encore moins chères que les japonaises. Mais ça veut dire que le yuan ne peut pas monter contre les autres monnaies parce qu'il est bloqué par le yen.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Chinois, ils aimeraient bien monter avec toute l'Asie, là, allez hop, on va monter un bon coup, mais tant que le yen est à ces prix-là, c'est pas possible.
Oui, mais peut-être qu'eux se disent, nous on peut pas tant que le yuan est aussi bas, aussi bien qui détermine la musique?
Eh ben, là, c'est la musique, c'est que début 2024, la Banque Centrale Japonaise dit, on va retourner à des prix de marché pour le marché obligataire.
Oui, ce qui nous a fait la hausse de juillet.
Et d'un seul coup, quand les gens se rendent compte de ça, paf, on a une hausse du yen, une première hausse du yen terrible. Donc le premier pète, c'est le yen qui passe de 160 à 140, mettons, tu vois, à peu près, à l'air vu de nez. Hein.
Là.
Et maintenant arrive, tu sais toujours qu'on dit, la deuxième chaussure qui tombe, quoi. La deuxième chaussure tombe, et il faut maintenant que le rendement sur les obligations japonaises vienne à un prix de marché. Et dans cette deuxième, ce que j'espère, là je suis dans les...
Oui, ben alors j'espère. On explique pour ceux qui ne sont pas membres de l'Université de l'Épargne que dans notre portefeuille de Brown, donc dans la gestion courante, nous avons une position cash, parce que dans votre portefeuille, chez nous, il y a une grosse position cash, 25% du portefeuille en cash. Et pour l'instant, nous sommes en compte d'attente avec ce yen à 25% de notre portefeuille. Parce que, comme Charles l'explique, quand une hausse arrive sur une monnaie, elle se fait dans les 6 premières heures. Donc si on n'est pas sur le yen dans ces 6 premières heures, eh ben, ça
on a raté la hausse. Et il y a quand même un petit 30% à faire pour qu'on retourne, si vous voulez, si la ligne bleue, c'est le cours du yen. Voyez bien que d'habitude, on est aux alentours de 110. Allez, on se balade entre 120 et 100. Là, on est à 147, donc on a encore de la marge, quoi, 143. Donc on peut aller de 143 à 110, et il n'y a pas de risque, en quelque sorte. C'est un truc qui n'est pas... C'est pas une position volatile. Une fois qu'on sera revenu à 110, on dira aux gens, bon, ben, on a fait notre petit chemin sur le yen, on va aller voir ce qu'on va faire avec les 25% qui ont été libérés, ce qu'on est racheté.
Et ceci ne constitue pas un ordre d'achat ou un conseil en quoi que ce soit. Je voudrais vous dire, parce que vous allez poser la question, que pour ceux qui veulent jouer, vous n'avez pas besoin d'aller au Forex ou ainsi de suite. Vous, avec un compte-titre, un CTO, par exemple sur Revolut, vous pouvez acheter des yens et sur d'autres brokers en ligne assez facilement. Voilà,
vous avez juste une position en yens.
Voilà. fiscalité duquel est expliquée dans l'université de l'épargne.
Et je crois d'ailleurs que sur les gains en change, je peux me tromper, mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas de plus-value.
Alors, on s'est divisé, mais Thomas Gallis, notre fiscaliste, a apporté des réponses sur ça. Ça dépend un petit peu des montants, ça dépend si tu es sur le Forex ou pas. En général, on considère que quand on n'est pas sur le Forex, on peut passer entre les gouttes, mais c'est une appréciation.
Voilà, c'est important ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire que si vous êtes un spieler professionnel sur les monnaies, et que vous faites, c'est votre vie, vous faites, à ce moment-là, vous paierez. Mais si vous êtes un investisseur qui a mis de l'argent en yens et puis passe...
Qui prépare un voyage au Japon.
Bon, par exemple, ben là, vous n'êtes pas imposé. Donc, moi, je crois que la plupart de nos auditeurs doivent être plutôt dans la deuxième catégorie que dans la première.
Oui, parce que ce n'est pas des gros montants quand même. Faut pas, enfin, on ne prend pas des positions sur 600 000 euros non plus.
Non, non. Donc, grosso modo, on a eu l'année dernière le premier mouvement de 160 à 140. Ce qui est peut-être comme commencé, c'est qu'on va avoir le deuxième mouvement, mais qui se passera cette fois-ci sur les taux longs. C'est-à-dire on passera de 140 à 120 ou 110, tu vois. C'est la première étape, c'était bon, la Banque du Japon qui abandonne son fixing, ouais. Les prix, en quelque sorte, les prix des obligations japonaises redeviennent déterminés par le marché et non pas par trois crétins à la Banque centrale.
Ce qui est toujours une bonne nouvelle dans la vie, parce que il faut des prix réels et il faut pas que des crétins, comme on a nous avec la BCE, déterminent une politique monétaire.
On a bien
vu,
regardez les crétins de 22 à qui ont fait des bêtises, les Japonais, de 2022 à 2024, en faisant pas ce que faisaient les autres banques centrales, en maintenant leur taux à zéro, ça a amené le yen de 100 à 160, donc ça fait un pet aux autres pays absolument épouvantable, parce que d'un seul coup, on n'est plus du tout compétitif contre les Japonais, quoi. Donc,
Ça c'est horrible, ça a été horrible, et c'est encore horrible pour l'Allemagne, parce qu'ils sont concurrentiels dans beaucoup de machines-outils, des choses très pointues.
La chimie fine, les voitures, tout ce que vous voulez.
Et donc l'Allemagne se trouve, alors déjà que l'Allemagne n'était pas dans une bonne situation,
En plus, elle doit se débrouiller avec, parce qu'ils ont vendu plein de machines pour faire des voitures et tout, aux Chinois.
Oui,
Les pauvres Allemands aujourd'hui, ils doivent se payer avec une monnaie surévaluée. Et la Chine et le Japon, c'est pas gagné.
Mais c'est encore plus dur pour moi le Japon, parce que le Japon a une image de marque quand même de technicité plus haute que le produit chinois à ce jour.
Ça change vite. Donc, première chose, c'est qu'on est en train de retourner à des prix de marché, c'est très bien. Alors, regardons maintenant le troisième, qui est l'histoire des taux longs au Japon. Vous voyez, les taux longs au Japon, il faut savoir que l'économie japonaise, depuis à peu près l'an 2000, connaît un taux de croissance nominal très très faible. Parce que d'abord, il y a de moins en moins de Japonais. Donc, grosso modo, c'est difficile de croître de 3% par an quand ta population baisse de 1% par an. Tu vois, Donc, la croissance nominale du PIB, c'était aux alentours de 1, 1,5. Bon. Et il y a une vieille règle que j'ai souvent expliquée qui est la règle d'or de l'économiste français là, qui s'appelait qui a le prix Nobel, mais enfin je retrouve son...
Je trouve toujours et je te dis toujours le nom du chanteur à la place de lui.
On le retrouvera, mais enfin c'est la règle d'or, c'est que sur le long terme, le rendement des obligations... Le rendement des obligations doit être à peu près égal au rendement, aux croissances nominales. C'est-à-dire que si le taux de croissance est à 1,5% par an nominal, tes taux longs doivent aller aux alentours d'1,5% nominal. Et c'est ce qui s'était passé jusqu'au moment où ils ont mené les taux zéro. Tu vois, on était à peu près à 1,5%. La ligne rouge était à 1,5%, puis elle est passée à zéro en dessous. Et tu vois, la façon dont ils ont bloqué, on le voit très bien, c'est de 2016... à 2022.
Oui,
on voit que c'est complètement faux, là. C'est des faux prix qui sont avec des taux négatifs, ce qui est débile. Mais depuis qu'ils ont libéré, les taux sont à 1,55. Donc, on est en train de revenir à un truc normal.
Oui,
alors, imagine-toi que tu es une spéculatrice particulièrement avisée et qui a 4-5 ans. Tu t'es dit ce que je vais faire, tu vas faire ce que fait Madame Watanabe, je vais vendre mes obligations japonaises et je vais acheter des taux à court terme aux États-Unis à 3 mois. Bon, ce qui était intelligent, mais maintenant, tu te dis, mais attendez une seconde, je peux avoir du 1,5 sur mes obligations, ce qui est bien.
Oui, parce qu'on est passé de 1,10 à 1,55.
On est passé de 1,10 à 1,55. On va peut-être faire un tour à deux pour se lancer, mais je m'en
fous. Oui, bah
mais
oui.
Ça devient un prix de marché. Mm-hmm. Donc, je suis maintenant, si les taux d'intérêt, pour une raison ou une autre, comme le marché obligataire vient de bien se casser la gueule au Japon, peut-être il va remonter maintenant. Et s'il se met à remonter avec le yen qui monte, qu'est-ce qu'elle fait, Wana Watanabe? Elle va vite vendre ses bons du trésor à 3 mois, américains, et elle va racheter des yens.
Toutes les personnes, c'est-à-dire que si le coup part un petit peu, toutes les personnes qui sont en carry trade et qui sont en position ouverte aussi, qui ont vendu le yen à la baisse, vont dire « Oh putain, j'ai pas envie de couvrir ça, j'ai pas envie de me retrouver avec une culotte une beaucoup plus grande. »
Une position qui était automatiquement gagnante devient une position où t'as à peu près autant de chances de gagner que de perdre à partir de maintenant. Donc, continue avec une position spéculative.
Donc, c'est toujours la fameuse histoire de ramasser des pièces devant un rouleau compresseur. Et là, il y a des gens qui doivent être en train de se dire, est-ce que je continue à ramasser des 20 centimes devant un rouleau compresseur?
Surtout que j'ai bien gagné ma vie.
Oui.
D'après des calculs que j'ai faits, il faut que je les vérifie, j'ai demandé à Didier de les vérifier là, mais je crois qu'ils sont à peu près exacts. Si j'ai vendu, mettons, à découvert le 10 ans le japonais, et si j'ai acheté des bons du trésor à 3 mois... Ouais.
Américain,
j'ai fait à peu près 50%.
Ouais.
Et donc...
Ah oui, comme un cochon, tu t'es bien mis.
je suis comme un goré. J'ai fait plein d'argent. Donc maintenant, ces 50%, je peux les concrétiser.
Voilà, et en intérêt composé.
En yen, donc ma position en yen deviendra 50% supérieure
à ma mise de départ.
À ma mise de départ. Donc c'est pas mal, quoi, 50%.
Madame Montanabel se dit c'est une bonne petite retraite quand même.
Voilà, on va aller faire un petit voyage à
Hawaï. Et
maintenant,
elle peut peut-être se dire très bien, je vais le mettre sur le marché japonais, je vais peut-être acheter.
À ce moment-là, on verra ce qu'elle fait parce que c'est pas inintéressant. Mmh. Mais en tout cas, ça veut dire que. La position qui était automatiquement gagnante qu'avait créée la Banque Centrale Japonaise n'est plus automatiquement gagnante aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut partir dans les deux sens. Elle peut aller gagner 50%, elle peut peut-être... c'est pas la peine d'en perdre la moitié ou de tout perdre. C'est autant le liquider, puis retourner dans Yen et puis attendre voir ce qui se passe. Quoi. C'est...
D'autant que l'économie américaine en ce moment... Ne donne pas des signes de...
Non, mais t'es 4%, je sais pas quoi, en bon du trésor, donc tu les as, ça. Mais en même temps, tu peux avoir quasiment du 2 sur des obligations chinoises. Et ta monnaie est sous-évaluée de 40%. Donc si tu retournes, tu vas gagner 2% plus sur le... Mais tu vas perdre 40%
sur le taux de change.
Donc...
ce qui s'est passé sur le marché.
Il y a maintenant un risque de 40%. Pour gagner du 2, alors qu'avant il y avait un risque de 0 pour gagner du 50.
Tu vois ce que je veux dire ? Plus la même limonade.
C'est plus du tout le même. Donc je sais pas quelle est la taille des positions qui ont été prises là-dedans, mais c'est probablement gigantesque. Et alors tu regardes, tu te dis, bon, alors maintenant je vais regarder un peu les fondamentales de l'économie japonaise. Alors, les profits des sociétés, à cause de cette dévaluation incroyable qui a eu lieu tout à l'heure, là, sont au plus haut historique. Jamais les sociétés japonaises n'ont gagné autant d'argent.
Oui, on en avait parlé quand on avait fait une émission sur le Japon, qui doit bien remonter à il y a 2 ans. Effectivement, les Japonais ont toujours des fonds propres dans les boîtes absolument hallucinants. Et je te disais à ce moment-là, mais pourquoi il n'y a pas plus d'OPA? Et tu me disais, mais...
C'est pas bien élevé.
Donc,
au Japon, c'est pas pareil. Hein.
Voilà, donc il y a des sociétés qui sont capitalisées de façon incroyable.
C'est pas difficile. On avait regardé ça il y a 2-3 ans ensemble. Le cash qu'il y avait dans les sociétés japonaises était égal à la valeur boursière des sociétés japonaises. T'achetais tout le reste pour rien. Il est beaucoup monté depuis.
Se voit pratiquement jamais.
Personne n'en parle jamais parce que cette hausse a été masquée par la baisse du yen.
C'est vrai.
Donc si tu l'achetais en euros, t'as rien gagné, quoi. Donc, mais Madame Yatanabe va se dire, je dois pouvoir trouver des sociétés de bonne qualité au Japon qui vont me donner du 3 ou du 4% de rendement.
Oui. Avec un yen qui sera parité.
Je ne prends aucun risque de change. Donc elle a peut-être décidé d'y aller, ou elle va décider d'acheter une deuxième maison à Tokyo, ou j'en sais rien, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a eu quand même des sommes gigantesques qui ont été dans cette opération.
Je crois que le gouverneur a dit qu'il allait dévaluer l'immobilier, enfin qu'il allait chercher, je ne sais pas quoi, 30%.
Ça, c'est possible, c'est le gouverneur, c'est pas les plus malins. Et donc, le Japon, les sociétés gagnent de l'argent gros comme elles. Tu regardes la balance commerciale du Japon. C'est-à-dire les importations moins les exportations de biens. C'est à peu près à l'équilibre. Mais si tu prends la balance des comptes courants, Madame Watanabe a mis tellement de pognon à l'extérieur que le rendement de son pognon à l'extérieur te fait un surplus de 5% des comptes courants. 5% du PIB des comptes courants. Donc, Madame Watanabe, elle est à la tête d'un portefeuille à l'extérieur qui est absolument monstrueux.
Alors, c'est important de
le
dire parce
que... Qui doit être à peu près de la taille du PIB japonais.
C'est important de le dire parce que très souvent, et c'est une question que vous avez, vous me dites « Oui, mais alors, Madame Ga, vous vous rendez compte, la population japonaise est vieillissante. » C'est vrai, mais ça, c'est une question pour dans 30 ans. Pour l'instant, nous, si on regarde cette évolution du yen et si on regarde l'évolution du Japon, on se pose la question pour après-demain. Effectivement, c'est une population vieillissante, on verra ça dans 30 ans.
Une population vieillissante qui, contrairement à nous, pour faire payer ses retraites, a été investir à l'extérieur du Japon.
Exactement.
Donc ils n'auront aucun problème, ils vont avoir des retraites, puisque je vous dis, écoutez, 5% du... Mettons, c'est-à-dire que grosso modo, à 5%, bon, si je capitalise, c'est 5%, on peut penser que la position extérieure nette du Japon doit être pas très loin du PIB japonais. C'est-à-dire que ils ont en réserve, en obligation australienne, en action française, en tout ce que tu veux, à peu près la taille de leur PIB.
Oui.
C'est absolument gigantesque.
Ce qui veut dire aussi que les gens qui disent « Oh là là, le Japon a une dette incroyable !»
C'est du coup, c'est n'importe quoi. Alors, ils ont une dette vis-à-vis d'eux-mêmes.
Déjà, point numéro un, ils ont une dette vis-à-vis d'eux-mêmes et ils ont des positions extérieures dont on vient de parler égales au PIB entier. Ça veut dire qu'ils ont deux PIB quelque part à leur...
Voilà, ils en ont un et puis un deuxième.
Et un deuxième.
Et donc, si un jour, ils ont besoin de yens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vivre au Japon? Parce qu'ils veulent vivre au Japon. Ils vont prendre des yens, ils vont les vendre, ce qui fera monter le yen. Donc, ils ont en quelque sorte eu pendant 10-15 ans un yen très sous-évalué pendant qu'ils exportaient, parce que ça faisait baisser le yen, mais c'était pour préparer leur retraite.
Et là, ils vont avoir...
Il n'y a pas de réunion toutes les semaines pour savoir ce qui va se passer des retraites au Japon.
Oui.
C'est le marché qui a décidé comment... Et c'est Madame Watanabe qui décide.
Et on rappelle que Madame Watanabe a fait plus 50% ces dernières années sur ses positions extérieures. Donc, elle est bien, elle. Elle est bien.
Elle est bien. Et par exemple, imaginez si Madame Watanabe achetait de l'or, ce qu'elle a fait. Ben, vous pouvez vous rendre compte que l'or, en dollars, il est passé de 1200 à 3000. Mais en yen, il est passé l'équivalent de 1200 à 5000. Donc elle a aussi des gains sur l'or, mais gigantesques. Elle a des gains sur tout. Elle a des gains parce que monnaie s'est tellement pété la gueule que c'était pas difficile de gagner de l'argent à l'extérieur. La décision importante, c'est de mettre son pognon à l'extérieur.
Et une fois que tu l'avais pris...
Maintenant, la question c'est, est-ce que j'en fais entrer un peu, beaucoup, pas du tout? Est-ce que je continue à sortir? Mais ça, c'est le marché qui va décider. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le marché, ça n'est plus un sens unique. Il peut y avoir, ça peut monter comme ça peut baisser. Il n'y a plus du tout la certitude de gagner qui existait avant. Quand même.
C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement que là, les conseillers bancaires en tout genre de Madame Watanabe se redéfinissent des stratégies de capitalisation. Parce que là, ils ne peuvent plus jouer le carry trade d'avant en se disant, voilà, là, il va falloir redéfinir. Ce qui veut dire que la politique... avenir du Japon économique va s'ouvrir. On ne sait pas s'ils vont jouer les actions, on sait pas. Peut-être que chacun va un peu faire un petit peu de tout.
Ce qu'il veut, mais aussi, par exemple, ce que ça veut dire aussi, c'est que exprimé en yen, je ne suis pas sûr que l'or soit un bon placement aujourd'hui pour les Japonais.
Bah, s'il est déjà à 5000, non.
Mais non, il va peut-être... Si le Japonais retourne à sa parité de pouvoir d'achat et que l'or ne bouge pas, exprimé en yen, l'or va baisser de 20%. Quoi.
Bah oui. Ça ne peut que...
Pour les Japonais.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc, ils ont des trucs qui peuvent rentrer. Alors, peut-être, il ferait bien d'acheter des obligations chinoises ou thaïlandaises ou je ne sais pas quoi. On en parlera aussi. C'est des trucs sur lesquels on travaille. Mais aujourd'hui, le point important, c'est ce qui a créé cette dislocation de marché. C'était une intervention imbécile de la Banque centrale.
As always.
c'est fini depuis le début de 2024 et qu'on a commencé la période d'ajustement qui devrait nous ramener à un truc normal. Et qu'on m'explique que c'est la catastrophe, ça veut dire qu'on comprend rien. Je veux dire que les mecs qui disent ça sont quand même des gros crétins, quoi. Mais il y en a pas qu'en France, hein. J'ai aussi des Américains qui disent la même chose.
Mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas réussi à trouver la capacité en eux de l'analyse plus loin que la baisse d'une courbe. C'est-à-dire, ils voient la baisse d'une courbe, quelle qu'elle soit, et ils disent c'est une mauvaise nouvelle. Ils te disent, je sais pas, faut peut-être penser en serrant l'incidence.
Mais c'est ce que disait ce bon Bastiat, il est un bon économiste, il voit les effets seconds. Mmh. Un mauvais économiste, il voit que les effets premiers. Je dévalue, mes exportations montent. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, si tu dévalues beaucoup, il n'est pas impossible que ta monnaie, que tu aies de l'inflation dans le pays. Et alors, ça nous amène au dernier graphique. Regardez encore une fois. La ligne bleue, c'est toujours le taux de change. C'est ce qu'on appelle l'indice pondéré du yen. C'est-à-dire que les banques centrales, la FMI, etc., publient des indices du taux de change qui sont pondérés par les exportations du pays vers différents pays. C'est-à-dire que tu fais une espèce de moyenne. Aux États-Unis, c'est 30%. La Chine, ça sera 20, etc. Et ça donne la ligne bleue. Donc, c'est pas un cours de change, c'est une agrégation de plusieurs cours de change. Tu vois, c'est un... Et la ligne rouge, c'est simplement l'inflation au Japon.
D'accord.
Ben, tu vois bien que la dernière hausse de l'inflation, qui est donc passée de moins 1 à plus 3,5, là, la ligne rouge qui est montée comme une fusée pendant la dévaluation, là, c'est très net.
Ouais, ben oui.
Et ben, on risque de... Pour que la ligne rouge baisse... Mmh. Il faut que la ligne bleue baisse. Mmh. Donc, si le taux de change monte, c'est-à-dire si le dollar baisse, mettons que c'est les monnaies, ben, l'inflation va disparaître.
Donc là, en inflation, ils sont à 3,56.
Oui, oui.
Donc 3,5 d'inflation.
Et 1,5 sur les obligations, c'est pas terrible. Hein.
C'est pas terrible.
C'est pas terrible, mais si ça revient à zéro, c'est bien. Donc pour...
Non, je réfléchis juste à l'homme de la rue. Je me dis, bon, 3,5, tu le perçois. Tu commences vraiment à hurler pour moi quand tu es au-dessus de 5.
Oui, enfin... tu commences à gueuler quand même plutôt là.
Ouais.
Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir des élections au Japon dans les mois qui viennent.
C'est vrai. Important.
Importante. Et tu te dis, bon, ben, si l'expérience des dernières années nous a appris quelque chose dans le monde, c'est qu'un gouvernement qui se présente aux élections quand il y a une hausse de l'inflation... Il est rarement réélu.
Sauf Macron.
Oui, mais ben, le Macron, si tu veux,
on a... Non, non, mais encore une fois, on a un système de la Ve République qui est stupide.
Nul,
mais moi, je m'étais dit, il va s'en prendre une.
Oui, mais il n'y a pas eu personne en face.
Mais il n'y a personne en face.
Il n'y a pas eu de campagne, en plus. Ben, à cause de l'Ukraine, il n'y a pas eu de campagne.
Ouais, voilà.
Donc, on change.
Et puis, personne n'a parlé de l'inflation.
Et puis, personne n'a parlé. Mais parce que, comme me disent toujours mes amis...
Il parle de pouvoir d'achat, ces crétins. Et personne ne parle véritablement de l'inflation, des mécanismes d'inflation. Parce que, de toute façon, si on devait parler de l'inflation de manière réelle, on serait obligé de parler de l'euro. Et on serait obligé de parler de comment contrer l'inflation, remonter les taux, donc avoir une banque centrale, donc sortir de l'euro.
Ben voilà.
Donc, in fine, on ne parle pas de la question qui fâche.
Ben, l'inflation, comme le disait ce bon OEF, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Mmh. Bon, on a fait ça massivement en France. On est dans une politique inflationniste monstrueuse, c'est-à-dire que ceux qui ont des rentes étatiques vivent très bien, merci. Et les entrepreneurs, ils en prennent plein la gueule. C'est en train de sauter partout. Si tu regardes les travaux de ce bon Marc Touati, tu te rends compte que les faillites des entreprises n'ont jamais été aussi fortes.
Et là, ce qu'il y a d'horrible, c'est qu'ils sont obligés de couper dans des systèmes de rentes parallèles qu'ils avaient créés, comme par exemple, là, on le voit en ce moment pour les taxis. Les taxis, donc c'est...
Mais qui sont toujours des rentes du secteur privé, ils ne vont jamais attaquer des rentes du secteur public.
Du secteur public.
Jamais.
Et ils commencent un petit peu comme ça, donc il va commencer à y avoir une grogne sociale dans le privé, de plus en plus grande, parce qu'ils sont à la rue, ils n'ont plus de financement, et donc ils sont obligés d'aller couper dans les systèmes de retraite de rente privée. Tu penses bien qu'ils ne s'attaquent pas à l'audiovisuel public avec Mme Ernaut qui a été reconduit, et des milliards.
Qui perd 2 milliards. Tu te rends compte que France Inter, ça perd 2 milliards. Mais il n'y a qu'à fermer France Inter, quoi. À quoi ça sert, ce truc? Dans une démocratie normale, il n'y a pas de raison que l'État dépense 2 milliards et plus.
France Inter, on vous racontait souvent, mais nos anciens bureaux étaient derrière l'espèce de verrue qui est donc France Inter. Alors, ce qui est horrible, c'est qu'ils font quand même des jolis concerts de temps en temps et qui sont ouverts au public. Et donc, les gens disent « Ah non, m'enlevez pas ça », ce que je comprends très bien. Mais enfin, ça ne coûte pas 2 milliards. Et ils ont des allées de fonctionnaires au 20e étage qui ne sont payés qu'à venir des huiles, des oukases.
Les anciennes.
Des anciennes.
Ce qu'on appelle l'allée des mélèzes.
Voilà.
C'est-à-dire l'allée où il y a les gars qui ont été à France Inter il y a 20 ans, quand il y avait Mitterrand ou j'en sais rien, ou 30 ans, et qui sont là, qui continuent à avoir voiture de fonction.
Secrétaire,
carte de crédit pour vivre noblement, etc.
Avec les taxis G7.
Avec les taxis G7. Là. Donc, on voit bien que la solution en France, c'est toujours d'aller taper le secteur privé, mais jamais d'aller taper le secteur fonctionnarisé, là, et dans lequel il y a toutes ces...
2 milliards, tu te rends compte, c'est quand même beaucoup d'argent.
Mais quand tu penses qu'il y a, quoi, paraît-il, 1400 hautes autorités, grands conseils, et je ne sais pas trop quoi d'autre, et que ça nous coûte 140 milliards, et que ces gens-là ne servent à rien. Donc, à aucun moment, il y a un type qui arrive et qui dit simplement, mais écoutez, on va fermer tous ces trucs-là.
Tu te rends compte, on a 140 milliards alloués à des organismes à la mort moelle-neuve, et le budget de la justice, lui, va être de 11 milliards. Tu te dis, ça n'est pas normal que la justice, qui touche absolument tous les citoyens...
C'est normal, parce que ça veut dire que le pauvre juge, s'il commence à avoir des velléités d'être autonome par rapport au pouvoir politique... Sa carrière s'arrête et terminera
à Limoges.
À Limoges.
Ce proverbial limogeage.
Donc, maintenir les systèmes régaliens dans la
seringue, quasi-misère.
En état de misère, c'est même chose pour la police, même chose pour l'armée, même chose. Donc, par contre, il faut distribuer largement le pognon aux.
Je parlais à un de nos membres récemment dans un des cocktails qu'on a fait, enfin des réunions qu'on fait, et qui est aux douanes côté français avec la Suisse. Et ils ont eu des inondations dans les bureaux, enfin là où ils ont leurs armes, puisqu'il fait partie des douanes. Et ils n'avaient pas de matériel de rechange. Donc pendant 3 jours, ils pouvaient pas sortir parce qu'ils ne veulent pas ressortir avec un bâton non plus. Donc voilà. Et ils voient bien d'année en année la dégradation du matériel. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de quoi faire leur travail.
Non.
Par rapport à leur père côté suisse, ils voient bien qu'ils sont complètement à l'os et qu'ils n'ont pas du tout de quoi travailler dignement.
Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que. Pour le Japon, s'ils veulent ramener l'inflation à 1% au moment des élections, ben regardons la petite courbe comme ça, il faudrait que le yen aille faire un petit tour, aller à 110, quoi, tu vois, c'est... Donc on est toujours la même chose, c'est...
À 110, c'est, ça. Oui, bah, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il s'active un petit peu.
Ben il faut... Oui, mais... Le Japon est ainsi fait, c'est un pays très...
Consensuel,
et si on explique à Madame Watanabe qu'elle a gagné 50%, c'est très bien, mais qu'il faut maintenant qu'elle rachète du yen, parce que... Voilà.
Moi, c'est ma théorie, je l'ai expliqué déjà. Moi, je pense que la saillie récente du gouverneur central qui disait « Nous sommes la Grèce, nous allons faire faillite » est une façon de dire « Venez sauver la face du Japon, rapatriez votre pognon maintenant, ça suffit. »
C'est pas impossible.
C'est mon analyse, connaissant les Japonais et leur besoin d'être une société structurée.
On a de la famille au Japon. On a une fille de ma sœur qui a épousé un homme d'affaires japonais. Qui est très sympathique.
Et lui, quand on lui parle, c'est un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi, qui a été un des premiers à investir dans Starbucks. Donc, vous voyez
ce que c'est. Il avait la licence Starbucks au Japon.
Donc, il a été un des premiers à avoir cette intuition. Il avait importé au début Agnès B au Japon, enfin des marques comme ça qui, dans les années 80-90, sont.
Il est tout petit et tout, mais il joue au rugby aussi. Donc, c'était un type.
Et donc, Riku, pour ne pas le nommer, lui a un sens très fort de son identité japonaise et il redonne beaucoup au pays.
Ce qui est à dire que lui. C'est très étonnant parce qu'il a organisé sa succession, parce qu'il est à peu près mon âge, il organise sa succession de façon à maximiser les impôts que sa succession doit payer au Japon. Je me suis dit, ça c'est pas...
C'est pas normal.
C'est quand même...
C'est intéressant, ouais.
C'est pas pareil. Quoi. Ils sont pas notés pareil, je dis, ils sont pas notés pareil, c'est vrai. Donc, alors, essayons de résumer ce qu'on a dit là. Le marché obligataire japonais se pète la gueule. C'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, le fait que les taux longs montent au Japon n'a strictement qu'une importance sur la capacité des Japonais à financer leur déficit budgétaire, parce que grosso modo, le déficit budgétaire japonais il est financé par Madame Watanabe, et qui le fait et elle le fera et continuera à le faire, et ça n'est qu'un transfert de richesse entre Madame Watanabe et son fils. Donc, elles sont contrefous, par exemple. Donc, c'est,
ou son petit-fils, mais elles s'en fichent.
C'est financé par le Japon. Donc, si je t'emprunte de l'argent, la dette augmente dans le pays, mais la dette consolidée de la famille n'augmente pas. Donc la seule chose qui compte en ce qui concerne la dette budgétaire, c'est est-ce qu'elle est détenue par des étrangers ou pas. Là, ils ont quasiment rien. Donc il n'y a aucun problème. Donc les gens qui m'expliquent qu'ils ne vont plus financer, c'est du grand n'importe quoi. Troisièmement, c'est le résultat d'une erreur qui a été faite entre 22 et 24. La Banque du Japon commence à se rendre compte que ça fait, que ça s'est passé entre 22 et 24. Donc, ils sont en train d'essayer de corriger. Donc, ils vont essayer de ramener les choses au système ex ante, c'est-à-dire le yen.
Donc là, à 110.
110, 101. Et donc, on va se retrouver. Ça veut dire aussi que si tout ça se passe, l'inflation sera très basse à ce moment-là et que le parti au pouvoir
devrait être conduit. Ils vont essayer de faire baisser l'inflation afin d'être conduit. Enfin, c'est quand même l'idée.
De façon à pas arriver aux élections avec
avec une inflation à 5, parce que c'est
une inflation à 3,5, c'est pas une bonne idée. Ouais. Alors, ce qui revient à dire que si j'ai une critique à me faire, c'est que j'avais bien compris le coup qui s'est passé en 2004, en 2024, pardon. Du yen qui allait se retourner vers son truc. Tu sais, il y a de la panique l'an dernier où c'était aussi la fin du monde, on allait tous mourir.
Bien sûr. Celui-là, là.
Mais j'avais pas bien intégré.
Les obligations
Les obligations qui n'étaient pas un prix de marché et qui devaient retourner dans un deuxième temps à un prix de marché. Mais. Donc, ben voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais. Si on revient au premier graphique.
Du coup, là, sachant que les obligations sont retournées au prix de marché, tu en achèterais?
Non, pas encore.
Pas encore.
Pas encore, parce qu'il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Puis moi, j'essaye de ne pas mesurer les. Quand, si et quand le yen retourne sur le premier graphique, là, derrière l'effondrement du yen, sur la parité des pouvoirs d'achat.
Donc
si,
à la ligne
si et quand le yen retourne à sa parité des pouvoirs d'achat. C'est-à-dire, on pourrait presque dire presque un doublement, quoi, ça paraît curieux, mais enfin voilà. À ce moment-là, on se posera des questions sur ce qu'on fait avec le yen en fonction de ce que refait les autres marchés.
Oui.
Parce que je ne veux pas dire, à ce moment-là, j'achèterai des obligations. Mais par contre, s'il y a des gens parmi nos auditeurs qui sont des fous furieux et qui ont envie de spéculer, de prendre un risque pas possible, acheter des obligations à 10 ans au Japon aujourd'hui à partir de l'euro. Parce qu'elles sont très survendues.
Moins 22.
Elles sont moins 22 sur année. Elles sont. Le yen est terriblement sous-évalué. Donc, tu peux te faire un petit 20-25% sur une spéculation à court terme. Mais
c'est pour ceux qui ont l'habitude.
L'habitude. Ouais. Mais voilà, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que dans mes jeunes années, j'y aurais été. Mais maintenant, j'ai la flemme, quoi.
Oui, oui. Je comprends. Tu as envie d'avoir des nuits tranquilles. Il faut savoir gérer son stamina.
Si tu te réveilles à 3h du matin tout glacé en disant « Mais pourquoi j'ai fait cette connerie ?»
Je comprends.
C'est pas une bonne idée. Mais maintenant, s'il y en a qui n'ont pas peur de se réveiller à 3h du matin...
Ou qui, de toute façon, sont réveillés parce qu'ils jouent le bitcoin.
Ou qui surveillent le prix du bitcoin ou l'ouverture à Pékin. Ouais. Ils peuvent peut-être s'amuser à ça. Mais c'est pas une recommandation. C'est simplement de dire « On va regarder maintenant... » si vous voulez, il y a... Comme on dit toujours ici, il y a le get rich
et le stay rich.
Vous savez, ça c'est un truc de get rich. C'est donc pas dans l'esprit maison. Mais de temps en temps, comme il y a des impatients là-bas, on vous connaît tous. Hein.
On
vous suit.
Ou qui ont 25 ans.
Ou qui ont 25 ans et qui ne comprennent rien. Si vous avez envie d'avoir des émotions, pourquoi pas, mon Dieu, quoi.
C'est marrant, je passe du proverbial coca-light, mais j'ai écouté un podcast récemment et il y avait un type qui disait, en fait, ce qui diffère beaucoup des hommes, des femmes, c'est qu'un homme de 25 ans, son souhait numéro un dans la vie, ça sera qu'il a besoin d'aventure.
Il a besoin de prendre des claques.
Et une femme, ça sera souvent la recherche d'amour, la recherche d'une relation, la recherche de l'être, de la fusion. Et je me suis dit, c'est pas inintéressant parce qu'effectivement, par exemple, en tant que femme, à 25 ans, je me suis jamais dit, tiens, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de faire des trucs à la con, de spéculer sur les obligations longues ou j'en sais rien. J'ai toujours aspiré à une vie douce,
Les femmes, d'ailleurs, ont cette caractéristique qui est très connue, c'est qu'elles s'intéressent aux gens, alors que les hommes, ils s'intéressent aux camions rouges.
Ouais, bah,
choses.
Et ce besoin. Oui, mais le camion rouge, pourquoi? Parce qu'il est rouge et parce qu'avec, on peut faire quand même des bêtises, aller vite, prendre de, voilà, et conduire et avoir l'air malin. Voilà, donc, avoir une aventure.
Et c'est pour ça que dans la nature, je crois qu'il y a 52 hommes qui naissent pour 48 femmes, parce qu'il y a un nombre considérable de mecs qui se tuent en prenant des conneries comme ça, quoi.
Voilà, en achetant des obligations longues.
En achetant des obligations japonaises, à un moment, tout le monde dit qu'il faut les vendre.
Ouais.
Donc, voilà, je voulais vous dire ça, c'est que... Là, ce que vous devez retenir, c'est qu'en aucun cas, ça n'est une mauvaise nouvelle. C'est un monde qui est en train doucement de retourner vers des équilibres. Et c'est un monde qui retourne vers l'équilibre, ça veut dire que tout ce qui était à un prix qui était anormal... à cause de ces interventions imbéciles des hommes politiques, vont aussi retourner à un prix normal. C'est là où on peut déployer sa logique à soi. Tant que les banques centrales sont prêtes à faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Mais à partir du moment où elles disent « Écoutez, j'y comprends rien, je vais lever la main, je vais arrêter de faire des bêtises », tout ce qui avait été influencé par ces indécisions imbéciles redevient envisageable. Voilà, c'était ça un peu le... n'oubliez pas, truc très important, quand j'étais dans... Il y avait un vieux monsieur, quand j'ai commencé ma carrière à la Banque de Suez, qui m'avait dit « Charles, souviens-toi toujours que lire la presse financière, c'est extrêmement dangereux pour ta performance. » C'est-à-dire... Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est, à part l'IDL ou l'Université de l'Épargne, il n'y a pas grand-chose qui vaille la peine d'être écouté sur le net.
C'est un peu ce que tu dis souvent. Là, on rentre dans la période de Roland-Garros, mais dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les joueurs de tennis professionnels qui sont sur un court et qui ont joué dans leur vie et qui ont fait des tournois. Et il y a les commentateurs depuis les gradins. Les commentateurs depuis les gradins, c'est sympa, mais c'est un tout autre métier. Ils n'ont jamais tenu une raquette et ils ne savent pas faire un coup droit. Donc, ils peuvent commenter tout ce qu'ils veulent sur comment il faut faire des coups droits, qu'il aurait dû monter au filet, qu'il aurait dû...
Ils ont toujours d'excellentes idées.
Mais... Ils ont toujours d'excellentes idées sur le moment où il aurait fallu changer les balles, mais en attendant, ils ne sont pas sur le court. Hein, donc
C'est ce que disait ce brave, le champion de boxe... de poids lourd, là, qui était incroyable, le noir, il disait « Tout le monde a une stratégie quand il s'agit de faire un combat contre moi. »
Mohamed Ali ?
Non, pas Mohamed Ali, c'est le petit, tu sais, qui avait fait de la tôle, le costaud comme tout.
Oui,
Mike Tyson. On a un
auditeur.
Un auditeur qui est venu nous voir, Mike Tyson, il disait « Tout le monde a une stratégie contre moi, puis elle disparaît la première fois que je lui mets un grand coup de poing dans le nez. »
Oui, souvent. C'est suivant la logique que des mecs de 130 kilos parlent, ceux de 60 les écoutent. Mais je pense que quand tu te prends une bonne droite de Mike Tyson, tout de suite,
tes idées de stratégie de ce que tu allais faire.
Et le marché a une façon de te mettre des coups de droit qui te donne, j'imagine, une certaine humilité quand tu le joues.
Ah, ça, je pourrais montrer toutes les cicatrices que j'ai dans le dos, des trucs
de l'humilité.
C'est ce que je dis toujours. Si vous voulez avoir l'air idiot souvent, intéressez-vous au marché financier.
L'école de l'humilité.
Et donc.
Donc, ce que peuvent dire les commentateurs qui manquent d'humilité, justement, depuis les gradins, ma foi,
vous
avez.
Faut laisser pisser le mérinos. Vous inquiétez pas trop.
Voilà.
Et j'ai l'impression que Jeeves commence à penser que ça a duré assez longtemps. Là.
Oui, voilà, mon cœur. On va rendre l'antenne. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ce petit brief sur le Japon vous aura donné du poil aux pattes, vous aura un peu expliqué pourquoi et ce qu'il en était. En tout cas, moi, je trouve que ça en a été très clair.
On
a tout bien expliqué, franchement. Moi, j'ai tout compris, donc j'espère que tout le monde aura tout compris. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine et on vous remercie beaucoup de nous suivre. Merci, au revoir.
Beaucoup.